J'ai regardé dans l'évangile de Saint Matthieu, j'ai regardé dans l'évangile de Saint Marc, j'ai regardé dans l'évangile de Saint Luc, et je n'ai pas trouvé chez eux de mention de l'amitié divine. C'est vraiment une spécificité de l'évangile de Saint Jean. Et à cet égard, il mérite son nom habituel de disciple bien-aimé, l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait. Le mot « ami » ne figure même pas dans l'évangile de saint Marc. Dans l'évangile de saint Matthieu, il est employé de façon plutôt négative, où on dit de Jésus, du Fils de l'homme, qu'il est l'ami des publicains et des pécheurs. Ou encore, au moment de la Passion, au moment de son arrestation, Jésus dit à Judas, « Ami, mon ami, fais ta besogne. » Et puis, dans l'évangile de saint Luc, il est question des amis uniquement, pratiquement au moment de la Passion aussi, mais juste après la mort de Jésus. Juste après la mort de Jésus, toute la foule, tous ceux qui étaient rassemblés pour ce spectacle, sans retourner en se frappant la poitrine, tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin, se tenaient à distance. L'amitié divine, c'est vraiment une caractéristique de l'évangile de saint Jean, c'est quasiment sa signature. Et elle s'accompagne, comme nous venons de l'entendre, d'une grande joie. Parce que l'amitié est une source de joie. Cela peut être aussi une source de déception, de trahison, mais d'abord de joie. Un ami est irremplaçable. Dans 8 jours, nous fêterons Saint Matthias, qui a été choisi, ce sera d'ailleurs la première lecture de dimanche prochain, non pas pour remplacer Judas. Qui voudrait remplacer un traître? Non, pour prendre sa charge, c'est-à-dire pour compléter et assurer l'unité des 12. Quand un veuf ou une veuve, quand une personne veuve se remarie, le nouveau conjoint, la nouvelle personne, ne remplace pas la première, qui sera toujours la première, et souvent d'ailleurs pour les enfants, souvent la seule. Succéder ne veut pas dire remplacer. Quand Jésus envoie l'Esprit Saint, c'est ce que nous fêterons à Pentecôte, l'Esprit ne vient pas le remplacer, et le Christ le confirme, je suis toujours avec vous. Je voudrais ce matin m'attacher aux 3 différences entre un serviteur et un ami, parce que c'est une différence que Jésus vient de faire, différence entre un serviteur et un ami. La première différence, c'est dans l'usage de son temps. L'ami est libre du temps qu'il a pour moi. Le serviteur, aujourd'hui on dirait un salarié, le serviteur il a une obligation de présence, d'un certain temps qu'il doit donner. C'est d'ailleurs la question même de notre présence ce matin à la messe, comme chaque dimanche. Est-ce qu'on y est par obligation ou par amitié? Je pense qu'on y est par obligation tant qu'on n'a pas compris que l'amitié, que l'amour vient de Dieu. C'est ce qu'on entend dans la première lecture. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous aime d'abord, avant tout en premier. Et nous sommes, comme on le disait jadis, nous sommes ses obligés, nous lui sommes redevables, nous sommes liés par la reconnaissance. C'est une belle phrase, ça, Seigneur, nous sommes vos obligés. L'ami, c'est celui qui a du temps pour moi. Et quand on dit du temps, de la patience. De la patience, de l'indulgence. L'autre jour, j'ai beaucoup ri, on m'a donné cette définition de l'ami. L'ami, c'est celui qui vous connaît et qui vous aime quand même. Eh bien, on peut dire que l'ami, c'est celui, surtout aujourd'hui, l'ami, c'est celui qui a beaucoup, beaucoup de choses à faire et qui a quand même du temps pour vous. Qui a quand même du temps pour vous. Il n'y a pas de plus grand signe d'amour que de passer du temps avec ceux qu'on aime. Deuxième différence entre le serviteur et l'ami. L'ami, je le laisse partir. Je le laisse libre, je ne le retiens pas. Ne me retiens pas, c'est la parole du Christ au matin de Pâques, à Marie-Madeleine. Ne me retiens pas. Ne me touche pas, mais ne me retiens pas. L'ami, c'est celui dont je respecte la liberté intérieure. Nous avons, et c'est assez logique, une vision qu'on pourrait qualifier de domestique du serviteur. C'est-à-dire du serviteur qui reste à la maison. Dans les paraboles de l'Évangile, même s'il passe sa journée au champ, il revient le soir à la maison. Or, dans l'Évangile de Saint Jean, le serviteur, il est envoyé. C'est même une des premières paroles essentielles du Christ au jour de Pâques à la résurrection. « Moi aussi, je vous envoie. » Et cet envoi, le don de l'Esprit-Saint vient le confirmer. Ayant dit cela, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux, « Recevez l'Esprit-Saint. » Ça fait partie de notre vie chrétienne. Notre présence à la messe, notre présence à la prière, ce qu'on peut appeler le service de Dieu. Le service de Dieu et l'envoi au monde. Et le plus difficile, c'est d'harmoniser les deux. D'harmoniser le service de Dieu et l'envoi au monde. Chaque fois qu'on diminue l'un, chaque fois qu'on restreint nos temps de prière, notre fidélité sacramentelle, on réduit l'autre. Ou plutôt, voyons-le de façon positive, chaque fois qu'on déploie l'un, chaque fois qu'on est de plus en plus fidèle, justement, au sacrement, à la prière, à l'intimité avec le Seigneur, plus ça rayonne, cette espérance que nous avons apportée au monde. L'Église n'est pas une société commerciale où on se répartirait les tâches, où il y aurait des professionnels de la prière, d'un côté, des techniciens qui resteraient comme ça cloîtrés à l'usine, et puis de l'autre côté, des commerciaux qu'on enverrait évangéliser, chercher de nouveaux baptisés comme de nouveaux clients ou de nouveaux contrats. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons tous les deux à tenir. La prière n'est pas réservée aux professionnels, l'espérance non plus. Mais si on poursuit l'image, il y a pire, il y a ceux, vous savez, dans la vie, qui n'osent pas dire pour quelle société ils travaillent, pour quel organisme, comme s'ils en avaient honte, ils ne veulent pas le dire. Ou même pire encore, encore plus malheureux, il y a ceux qui le disent mais pour en dire que du mal. Vous savez, qui parlent de leur boîte ou de leur employeur pour le dénigrer sans cesse. Le problème, c'est pas que c'est pas bien, c'est très mal. Quelle tristesse, quel malheur. Eh bien, ce qui peut arriver dans le domaine du travail, de l'emploi, est impossible dans le domaine de l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement celui qui vous veut du bien, qui est bienveillant, c'est celui qui en dit du bien de vous. Béni soient nos amis. Béni soient-ils dans la façon dont ils parlent de nous. Qui ne permettent pas, d'ailleurs, qu'on parle de nous de façon injuste quand on n'est pas là. Qui parlent de nous en bien. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est amoureuse? Eh bien, on le voit très vite, ou on l'entend, à la façon dont elle parle de la personne qu'elle aime. C'est d'ailleurs beau, on dit « Ah, elle est amoureuse ». Eh bien, vous imaginez que quelqu'un vous aime, même d'amitié, et soit ne parle jamais de vous, soit n'en dise que du mal. Voilà ce que je peux vous suggérer d'ailleurs, en prévision de la Pentecôte, dans les 2 semaines qui viennent. De regarder, de vous interroger sur la façon dont vous parlez de Jésus. À qui? À quel moment? Surtout de quelle façon? Dans sa lettre sur la sainteté, le pape fait cette demande très claire. Je demande à tous les chrétiens de faire chaque jour un sincère examen de conscience. Pas seulement sur ce qu'on fait, sur ce qui est bien ou pas bien, sur la vie morale, sur ce qu'on vit avec lui. Je demande à tous les chrétiens de faire chaque jour, en dialogue avec le Seigneur qui nous aime, un sincère examen de conscience. La troisième différence entre un serviteur et un ami est dans la marge de désaccord dont on dispose. La possibilité de désaccord qu'on peut avoir soit du serviteur avec son maître, soit justement entre amis. Le propre de l'ami, c'est justement de pouvoir ne pas être d'accord, de pouvoir le dire sans que ce soit un drame, sans que ce soit un crime de lèse-majesté. Quand Pierre est venu à Antioche, raconte saint Paul, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il s'était mis dans son tort. Et nous touchons là un point de discernement essentiel, discernement que nous avons à faire entre les commandements de Dieu, mon commandement dit Jésus, entre les commandements de Dieu qui s'imposent à nous sans aucune contestation possible, parce que justement, Dieu n'a jamais tort, Dieu est infaillible, ces commandements de Dieu qui s'imposent à nous, et ce qui peut relever effectivement de la tradition, d'une appréciation personnelle, de la conscience. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Et le pape François l'explique de façon très belle, il dit, nous disons souvent que Dieu habite en nous, mais il faut dire aussi que nous habitons en lui, qu'il nous permet de vivre dans sa lumière et dans son amour. Le mystère de l'amitié divine est justement dans cet accueil mutuel, réciproque, un accueil réciproque dont Dieu a lui seul l'exclusive initiative. Dieu est impartial, dit la première lecture. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Quelle que soit leur origine, il accueille les hommes qu'il adore et font ce qui est juste. Il accueille les hommes qu'il adore et font ce qui est juste. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui accueille. Et c'est en cela que l'amitié divine diffère de l'amitié humaine. Dans l'amitié humaine, les deux sont à égalité. Il n'y en a pas un qui peut avoir systématiquement, toujours, longtemps l'initiative. Sinon, justement, la relation se dégrade s'il n'y a pas un minimum de réciprocité. Cette initiative de Dieu, cette source de l'amour, c'est ce qui fait la grandeur et la beauté de l'amitié divine. Il nous appelle. Il nous attend. Il nous accueille. Nous ne le dérangeons jamais. Voudriez-vous comparer la relation que vous avez avec le Seigneur et celle que vous avez avec vos amis? Dieu a du temps pour moi. Dieu me laisse libre, il ne me retient pas. Dieu ne se trompe pas. Il est une source infinie de joie.